Terre à Terre, le magazine de l'environnement. On s'intéresse ce matin encore à la forêt et on s'interroge sur la pureté des projets qui la concernent. Sylvain Angerand, ça fait combien d'années maintenant que vous vous occupez des forêts aux Amis de la Terre ?
Depuis 10 ans, bientôt 10 ans.
Voilà. Vous étiez prédestiné.
Peut-être. En tout cas, c'est vrai que c'est une passion. Ouais.
Et c'est dans le cadre de cette passion qui est devenue une profession, un métier.
J'ai la chance d'en faire d'être salarié aux Amis de la Terre. Ouais.
Que vous êtes allé vous faire un rapport sur un projet assez magnifique, puisqu'il s'appelle Pur Projet. C'est vraiment très beau. Et ce rapport vous a conduit à examiner non seulement ce pur projet, il y a des majuscules partout, hein, à pur, à projet, mais également le contexte dans lequel il s'inscrit. Et je suis très contente que vous ayez fait ce rapport, parce qu'on n'avait encore jamais eu l'occasion à Terre de parler des mécanismes RED, R-E-D-D, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Des mécanismes assez compliqués, qui sont une sorte d'invention qui est arrivé après l'invention du marché carbone, qui s'inscrit un petit peu dans cette mouvance, dans cette idée, mais avec la particularité d'appliquer ces marchés carbone, ce marché carbone, non pas aux émissions dues à l'industrie, mais à la forêt. Alors, par quoi est-ce qu'on pourrait commencer ?
Bah déjà par tout ce que vous venez de dire, où je pense que ça mérite de creuser un petit peu différentes parties. D'abord, pourquoi on parle de RED aujourd'hui, alors qu'il y a 10 ans, effectivement, quand j'ai commencé, on était en plein dans les campagnes pour lutter contre les exploitations de bois exotiques, les importations de bois illégales, etc., etc. Et là, aujourd'hui, on parle de RED, parce que la donne, elle a changé. Je pense qu'on a obtenu des résultats intéressants sur les importations de bois exotiques. Il y a moins de bois exotiques. On a obtenu un cadre européen qui permet de réguler un peu les importations de bois illégales. C'est loin d'être fantastique, mais ça va être dur d'aller plus loin. Et puis parce qu'en fait, le monde a bougé.
Avant de voir comment le monde a bougé, peut-être juste pour préciser, est-ce qu'on a un peu atténué la déforestation ?
Non, justement. Parce que la question de l'exploitation du bois, elle est cruciale. Bien souvent, c'est la première étape de la déforestation. Et aujourd'hui, les forêts, eh bien, sont soumises à de multiples pressions qui existaient déjà à l'époque, hein, que ce soit les conversions pour faire de l'huile de palme, l'exploitation minière, qui a complètement explosé. Aujourd'hui, on vient maintenant exploiter dans des forêts, et notamment le gouvernement français, avec l'entreprise française Eramet, dont M. Montebourg veut faire un géant international de l'approvisionnement en métaux, qui est en train de raser 2000 hectares de forêts primaires en Indonésie. Voilà. Donc là, on est dans l'incohérence la plus totale. Et donc effectivement, il y a 10 ans, quand on parlait de forêt, on parlait de bois, d'achat responsable de bois, et c'était important, c'est un travail qui est important à faire. Et qui n'est pas fini, mais aujourd'hui, il faut s'attaquer à toutes ces pressions sur la forêt. Et ce qui est absolument fou, dans ce que vous expliquiez, c'est qu'en réalité, il y a des liens très forts entre les gens qui détruisent la forêt, ces industries qui les détruisent, et bien souvent, c'est les mêmes qui prétendent les protéger. Et c'est ce qu'on va voir avec ce processus RED, qui est né dans cette logique-là. Qui a porté RED au départ ? Très rapidement, on a vu des grands groupes industriels, type BP, type General Motors, qui ont investi les premiers dans ces mécanismes de conservation de la forêt. Alors pourquoi ils ont fait ça ? C'était pas totalement désintéressé. La logique, c'était de dire, pour pouvoir continuer à polluer et exploiter des énergies fossiles, ce qu'on fait d'une main, on va le compenser d'une autre en protégeant la forêt. Et ce sont eux qui ont poussé très rapidement sur RED. Alors, pareil, quand on dit que RED n'existait pas au moment du protocole de Kyoto, là aussi, c'est faux. RED existait. Déjà, à l'époque, ces mêmes entreprises, ces mêmes gouvernements, et notamment les États-Unis, avaient poussé largement pour que les forêts fassent partie du protocole de Kyoto. Ça avait été refusé d'une très courte, pas majorité, mais d'un très court, hein, ça a été légèrement écarté. Les plantations d'arbres ont pu rentrer dans le protocole de Kyoto, mais ce qu'on appelle la conservation des forêts, le fait de donner des crédits carbone si on ralentit la déforestation, qui sont des mécanismes extrêmement controversés, sont sortis. Voilà. Pourquoi? Essentiellement parce que le Brésil avait bloqué. Le Brésil, à l'époque, ne voulait pas que l'on vienne remettre en cause sa souveraineté sur l'Amazonie. C'est vraiment le curseur qui définit la politique du Brésil sur l'Amazonie. Le Brésil est souverain sur l'Amazonie. Et le Brésil voyait, dans cette tentative que les marchés du carbone mettent la main sur les forêts, un travail de sape de sa souveraineté. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, ça avait bloqué.
Même si, Sylvain Angerand, j'ai lu dans votre dossier que c'est un autre gouvernement qui avait porté au départ ces mécanismes RED. Parce que là, vous avez parlé de l'implication immédiate des grandes multinationales, les entreprises. Oui. Mais c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a proposé en 2005.
Officiellement, c'est ce qu'on a appelé la coalition des pays forêts tropicales, avec la Papouasie, le Costa Rica et autres. Costa Rica qui, effectivement, est un pays qui avait... expérimenté très tôt ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux. Mais ces pays, ce sont des chevaux de Troie, en fait, de ces entreprises, parce qu'on l'a vu très, très vite. Pourquoi la Papouasie-Nouvelle-Guinée ? La Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est un pays dans lequel vous avez une véritable ruée des industries extractives, et en particulier des pétroliers américains, Chevron et autres, qui voulaient justement aller chercher le pétrole dans les forêts. Et au même moment, la Papouasie propose ce mécanisme RED. Donc les deux sont vraiment très très liés, ça c'est très très clair. Et on a documenté plusieurs études de cas dans ce cas-là, en Indonésie, en Malaisie, au Brésil, dans l'état du Paraguay. General Motors, American Electric Powers, a financé l'un des premiers projets pilotes RED dans l'état du Paraná. Et ce projet pilote, il a consisté à protéger une forêt, à créer une police verte pour empêcher les gens de venir dans la forêt. Mais les gens qui étaient là, ils avaient besoin d'entrer dans la forêt, ne serait-ce que pour construire leur maison, aller chercher du bois, ou même aller cueillir des cœurs de palmiers pour se nourrir. Désormais, c'est interdit, parce que ces arbres font partie, c'est le carbone qui a été acheté par General Motors. Et pourquoi General Motors a fait ça ? C'est qu'au même moment, aux États-Unis, il y avait un débat pour créer une loi sur le climat. Une loi sur le climat pour demander à ces entreprises de réduire leurs émissions. Et ces entreprises ont fait non seulement un travail de sape, en finançant tout un tas de think tanks pour expliquer que le changement climatique n'existait pas, et de l'autre main, financer en même temps ces projets pilotes. C'était pas idiot. La logique, c'est que si jamais ça passait quand même la loi, ils pourraient venir auprès du gouvernement, et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Californie, en disant, bon, ok, allez, il va y avoir une loi, mais quand même, vous reconnaissez ce qu'on a fait de façon volontaire. Tous ces projets volontaires, regardez ce qu'on a fait au Brésil. Allez, ok, on accepte des contraintes, mais vous acceptez que plutôt que de réduire, on puisse vendre ces crédits carbone. Et c'est ça le fond du problème de RED, c'est qu'effectivement, tous ces projets volontaires, comme pur projet, sont toujours là pour dire, oh, mais écoutez, ça n'a rien à voir avec les négociations sur le climat, ne vous inquiétez pas, ce sont des projets volontaires, ce sont juste des entreprises qui ont des intentions pures et qui veulent donner un petit peu de leurs bénéfices pour aller planter un arbre parce qu'il faut protéger la forêt. Je ne crois pas aux intentions pures venant de ce type d'entreprise. Surtout que si on regarde, les entreprises, alors General Motors en particulier, si General Motors veut réduire ses émissions de carbone, moi j'ai des idées très simples. Si Vinci, qui finance Pure Projet, veut réduire ses émissions de carbone, on a aussi quelques idées assez simples à faire passer.
Assez proches.
Voilà.
Par exemple, vous pensez à Notre-Dame-des-Landes, c'est ça ?
Je pense à Notre-Dame-des-Landes, ou encore plus que... Enfin, un peu moins connu en France, quoique, Vinci est en train de construire une autoroute en Russie qui va raser la forêt de Khimki. Cette forêt est extrêmement importante, puisque c'est le poumon vert autour de Moscou. Et il y a une contestation très forte qui s'est organisée. Et Vinci continue. Et ce qui est scandaleux, ce qui est absolument scandaleux, c'est que Vinci a un partenariat avec Pure Projet. Et que Tristan Lecomte, qui a créé Pure Projet, assume totalement ça. Dans une émission radio, il a expliqué qu'il était fier que Vinci, qu'il travaille avec Vinci. Comme ça, Vinci peut aller voir le gouvernement de Russie et expliquer, certes, on va vous construire l'autoroute, mais derrière, on a une solution clé en main pour en compenser les dégâts. Et comme ça, vous pourrez atténuer toute forme de contestation. Il le revendique.
Mais alors, avant d'en venir spécifiquement à Pure Projet et à ses intentions si pures, Sylvain Angerand, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi ces mécanismes RED ont eu du mal à percer sur la scène internationale. Vous disiez tout à l'heure, bon, c'est le Brésil, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait qu'il y avait une sorte de méfiance, de suspicion, alors que par ailleurs, on s'arrachait les crédits carbone ?
Parce que c'est une imposture scientifique. C'est tout aussi bête que ça.
Le crédit carbone, entre nous.
Eh bien,
C'est pas non plus un peu une imposture scientifique, non ?
Bien sûr. Alors, les crédits carbone, de façon générale, sont très contestables, mais les crédits carbone forestiers en particulier, c'est une imposture scientifique. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer en quelques mots, mais je vous renvoie vers les rapports qui ont été produits par nos collègues, notamment de Fern. Vous trouverez des choses aussi sur le site des Amis de la Terre. Il n'y a pas d'équivalent entre du carbone fossile et du carbone biologique. Quel est le problème aujourd'hui avec les changements climatiques? On est en train de remettre en circulation dans l'atmosphère de grandes quantités de carbone fossile, c'est-à-dire qui était sous le sol, inerte. Vous le remettez en circulation dans l'atmosphère. Mais que ce carbone soit dans l'atmosphère, dans les océans, ou stocké dans les arbres, ça revient quasiment à la même chose d'un point de vue climatique. C'est un cycle dynamique qui est en équilibre. Typiquement, si vous continuez à remettre du carbone en circulation, la température va monter, et la forêt, qui était un puits de carbone, va devenir une source, avec le stress hydrique, comme on l'a vu pendant la canicule, ou pire, les incendies. Donc, en fait, c'est un stockage extrêmement temporaire. Donc, c'est une imposture scientifique de dire que l'on peut compenser la remise en circulation de façon définitive de carbone fossile dans l'atmosphère, parce qu'une fois qu'il est remis en circulation, lui, on ne pourra pas le remettre dans le sol, avec un stockage temporaire. C'est une imposture scientifique. Double imposture scientifique, avec RED, c'est que celle-ci, déjà, c'était ce qu'on pouvait contester sur les mécanismes de boisement et de reboisement. C'est pour ça que le protocole de Kyoto les cantonne très étroitement. RED, ça va plus loin que ça. RED, c'est affirmer qu'on est capable de lire dans une boule de cristal. Concrètement, un pays comme le Guyana, qui a été l'un des premiers pays à faire une proposition de RED, dit « Aujourd'hui, la déforestation au Guyana est très faible. Par contre, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, voici la courbe de déforestation qui va faire qu'augmenter. » Cette courbe, produite par un cabinet, à l'époque c'était McKinsey, qui a raflé la mise partout, qui produit des scénarios de déforestation. Quand on regarde ces scénarios de déforestation, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Le Guyana qui nous explique, ben voilà, nous, en fait, on va raser toute la forêt pour mettre du palmier à huile. Au Congo, on va tout raser pour mettre des industries extractives. Mais ça veut dire quoi? Comment peut-on savoir effectivement comment les choses vont évoluer? C'est absolument impossible. Comment peut-on dire qu'on sait comment va évoluer la déforestation dans 10 ans ou 20 ans? Autre argument, par exemple au Brésil, on a montré que l'évolution du taux de déforestation, vous savez, tous les ans, on a toujours le scoop « Ah, la déforestation diminue, augmente en Amazonie ah, ». À chaque fois, on a des articles dans la presse. Et on a montré qu'en fait, ces taux de déforestation étaient certes liés en partie à l'action de l'État du Brésil, mais beaucoup aussi aux variations des cours mondiaux des ressources naturelles, notamment du soja. Quand vous avez le prix du soja qui est haut, vous avez plus de déforestation. Quand il est bas, vous avez moins de déforestation. Même la parité entre le yen et le dollar influence le taux de déforestation. Donc, qui est capable de prédire l'évolution de la déforestation? Qui était capable de prédire en 2005 qu'il y aurait une crise économique en 2008 et que la déforestation ralentirait? C'est impossible. Donc, ça veut dire, en fait, quand vous faites ce type de scénario de déforestation et que vous vendez des crédits carbone, parce que la logique, c'est de dire « Je parie que la déforestation va augmenter de façon très très forte. » Et donc, quand on revient dans 5 ans, si la déforestation est un peu moins forte que le joli scénario que vous avez vendu, bah l'écart entre les deux, ce sont les crédits carbone RED. C'est ça qu'une entreprise polluante comme General Motors, Vinci ou autre peut acheter. Eh bien, ces crédits carbone-là sont fictifs, puisqu'ils viennent d'une boule de cristal. C'est un peu compliqué, je le reconnais.
C'est compliqué, mais en tout cas, on peut se féliciter que, pour une fois, les États aient été un peu moins crédules par rapport au miroir aux alouettes qu'on leur tendait et qu'ils aient finalement pas tellement versé dans cette proposition de crédit carbone RED. Vous n'avez pas l'air sûr. Mais ce que j'allais vous demander, en fait, c'est comment et pourquoi, tout de même, quelqu'un comme Tristan Lecomte, qui a un passé tout à fait prestigieux, puisqu'elle a été un des fondateurs d'Alter Eco, il a été reconnu comme une des 100 personnalités les plus influentes par le Time Magazine aux États-Unis, que c'est un jeune patron extraordinairement dynamique. Qu'est-ce qui fait que lui a eu envie d'enfourcher ce mauvais cheval? Alors déjà, répondez, parce que vous n'aviez pas l'air d'accord quand j'ai dit que les États avaient été moins crédibles que d'habitude.
Oui, parce que la situation, c'est moi qui n'ai pas été aussi assez clair, c'est que la situation n'est pas aussi tranchée que ça. C'est pas noir ou blanc. Aujourd'hui, l'Union européenne a mis un moratoire sur les crédits carbone RED jusqu'au moins 2020. Mais un moratoire, ça ne veut pas dire un abandon définitif. On a réussi à faire reconnaître à plusieurs reprises que ça ne reposait sur aucune base scientifique. Mais c'est toujours, il y a une lutte très très forte. Par contre, les partisans de RED, eux, ce qu'ils ont obtenu, c'est ce qu'ils appellent l'approche en plusieurs phases. Donc, dans un premier temps, ils vont demander au pouvoir public d'investir dans les programmes RED avec de l'argent public et pas de l'argent du marché du carbone. Mais pour, en fait, créer des structures de contrôle, d'audit, des projets pilotes...
Alors, attendez, qu'est-ce que c'est qu'un programme RED si ça n'est plus un marché carbone ?
Eh bien, en fait, il n'y a pas qu'un marché carbone. Il y a plein de marchés du carbone. Il y a le marché carbone officiel. Ça, c'est le Graal. C'est ce que veulent les entreprises. Parce que le marché carbone officiel, ça veut dire que pour continuer à polluer, si vous avez une obligation réglementaire, vous pourrez compenser en finançant ce type de projet. Aujourd'hui, ça, on est d'accord que c'est gelé. Voilà. Par contre, vous avez plein d'autres formes de marché du carbone, et notamment le marché du carbone volontaire. Ça, c'est une entreprise qui dit de façon volontaire, je compense mes émissions de carbone. Type Air France, ainsi, de nombreuses entreprises. Et en fait, les deux sont extrêmement... Il y a une porosité entre les deux. C'est nous, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a beaucoup de projets carbone volontaires, comme le projet Peugeot au Brésil, qui a été fait avec l'ONF, un des premiers projets en 1993. C'était un projet, au départ, uniquement pour mesurer de façon scientifique la capacité de stockage des arbres. Bon, très bien. Puis ça a dérivé. Oui, c'est un projet volontaire de carbone, hein, mais bon, c'est au bénéfice des communautés. Et maintenant, officiellement, ils génèrent des crédits carbone qui peuvent être échangés et vendus. À Madagascar, le même problème. Air France finance de façon volontaire un projet de compensation carbone. Mais au même moment, en Europe, on est en train de discuter d'une réglementation pour contraindre le secteur aérien à polluer moins. Eh bien, on sait très bien ce qui va se passer. C'est que Air France va venir en disant « Ok, on accepte une réglementation, mais vous, vous acceptez nos crédits carbone. » Voilà. Donc cette porosité-là, elle existe et elle est vraiment extrêmement importante. Ce qui nous amène à pourquoi Tristan Lecomte ? Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas dans Tristan Lecomte. Je ne sais pas ses motivations exactes. Ce qu'on constate, nous, c'est une extrême naïveté parce qu'encore une fois, il est très clair que ça repose sur aucune base scientifique et que la logique de dire qu'une entreprise a des intentions pures et que planter un arbre serait, comme il l'a dit plusieurs fois, un simple jeu ou une action toujours bénéfique, non. Non, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dans de nombreux pays du Sud, planter un arbre est un acte d'appropriation du foncier. Au Pérou en particulier, en Afrique ou ailleurs, les gens, il y a des vrais problèmes sur à qui appartient la terre. Et quand vous plantez un arbre ou que vous achetez une forêt, c'est très compliqué. Et là, ce qu'on a observé justement lors de cette mission, c'est que les concessions qu'il a obtenues, il y a des gens qui vivent dans ces concessions.
Attendez, attendez. On va y venir, mais on va essayer d'y aller tranquillement, Sylvain Angerand. Alors... Donc, vous parlez de la très grande naïveté de Tristan Lecomte, fondateur de Pure Projet, une naïveté qui est quand même bien encadrée par un esprit pratique tout à fait cohérent, puisque, de fait, il y a un calcul qui a été fait, et on s'aperçoit que ça peut être tout à fait juteux, quand même, cette affaire, ouais, sur le plan... Juteux. Donc, ça, on va y revenir, mais surtout, vous aviez commencé à nous expliquer... Comment et pourquoi ce projet de marché carbone n'était pas totalement enterré ? Et vous disiez, les tenants du projet ont réussi à convaincre les gouvernements à agir en trois phases. Une première phase qui consisterait à doter, à financer avec des fonds publics des projets RED, dont on a compris donc qu'ils peuvent être des projets volontaires, etc. Donc on abonde avec des fonds publics des projets... volontaires des entreprises privées. Déjà, je trouve ça intéressant.
Ouais, ouais. Alors, soit on abonde, on finance des projets pilotes, voilà. Soit on crée les cadres dans les pays qui vont permettre de mettre en place ces projets. On crée des organismes qui vont être chargés de la mesure du carbone. On crée des programmes de surveillance satellite qui vont permettre de surveiller la forêt. Voilà. Ça, c'est l'utilisation des fonds publics. Et après, la deuxième phase, c'est on passe justement à un mélange un peu hybride entre financement public et privé. Et puis la troisième, alors là, c'est la fête, c'est le marché du carbone. Donc on a cette approche un petit peu différée qui est extrêmement intelligente parce que du coup, tous les investissements les plus coûteux, c'est-à-dire ces coûts de surveillance, ces coûts de certification, qui représentent la plupart du fric qui est investi dans ces projets-là, est payé par les pouvoirs publics. Il y a juste à la fin la cagnotte qui est récupérée par les entreprises. Récupérée de deux sortes, puisque vous avez des entreprises qui vendent les crédits carbone qui gagnent de l'argent, et les entreprises qui polluent, qui du coup peuvent s'acheter une conscience pas trop chère, quoi. Donc c'est vraiment un business très très rentable, quoi. Voilà.
Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'on peut dire que, pour résumer la situation, on a dit aux États, bon, vous hésitez, vous n'êtes pas encore complètement sûr, donc on vous propose de faire ça tranquillement, on va y aller tout doucement. Donc d'abord, vous donnez de l'argent, et puis finalement, cet argent va servir, et puis finalement, il va se retrouver dans la poche du privé. justement dans le cadre de ce projet que vous hésitiez à considérer comme scientifiquement valide, c'est ça ?
Tout à fait. C'est-à-dire que dans cette première phase de Rennes, chaque pays candidat a dû faire une analyse de ses facteurs de déforestation, voilà, pour établir ensuite ces fameux scénarios. Bon. Et nous, on s'est penché sur ces analyses pays par pays, et on a découvert des choses stupéfiantes. Un pays comme le Gabon, avec 2 millions d'habitants, quasiment pas de pression sur les forêts, si ce n'est de l'exploitation industrielle de la forêt pour le bois et de l'exploitation minière, cause principale de déforestation, l'agriculture surbrûlée. Si j'ai mis un pied au Gabon, c'est absolument incroyable. Au Pérou, pareil, cause principale de la déforestation, l'agriculture surbrûlée. Attendez, les cocos, vous avez la moitié de la forêt qui est allouée sous forme de blocs pétroliers d'exploitation industrielle. Vous avez des projets qui déplacent des milliers de personnes qui sont obligées de fuir les zones où ils vivaient pour venir s'installer en forêt. Et la cause principale de la déforestation, c'est les paysans. On retrouve toujours ça en tête numéro. La liste des facteurs de déforestation, c'est toujours celle-ci. Les paysans en premier. Pourquoi ? Ça aussi, c'est passionnant à expliquer. Pourquoi ? Parce que derrière le raisonnement économique qu'il y a derrière RED, c'est un raisonnement de coût d'opportunité, qui a été popularisé par le rapport Stern, rapport, gros rapport sur le changement climatique qui a fait beaucoup de bruit. Et qui a dit qu'en fait, ce rapport, c'était l'un des premiers à expliquer que investir massivement dans RED, c'était le moyen le plus économiquement rentable de limiter le changement climatique. C'est ce qui permettait de réduire, avec la même quantité d'argent, c'est ce qui était le moins coûteux pour réduire les émissions. Pourquoi ? C'est cette logique de coût d'opportunité. Allez convaincre un Parisien de ne plus rouler en 4x4, par exemple. Si je te donne 10 euros, t'es d'accord ? Oh non, 100 euros. Oh non, 500 euros. Allez, 500 euros pour ne pas émettre une tonne de carbone, disons. Allez convaincre un petit paysan de Madagascar ou du Pérou de plus défricher ou autre. Tu lui prends combien ? Il prend pas 500 euros, vous voyez ? Et même, on lui demande pas son avis. On donne 10 euros à un garde qui est chargé de faire la police et d'empêcher les gens de rentrer, et pour 10 euros, vous avez protégé la forêt. C'est ça qui est en train de se passer. Le coût d'opportunité, c'est de dire qu'il est beaucoup plus économique de faire changer les comportements des plus pauvres plutôt que de faire changer les comportements des plus riches. Et c'est absolument intolérable, absolument injuste. C'est que justement, ces gens qui vont être les plus vulnérables au changement climatique, si on parle du Pérou, le Pérou est un des pays les plus exposés, puisque si les glaciers fondent, il y a moins de rivières. Et donc, tous les gens qui s'étaient établis là vont être complètement déstabilisés. Ces gens-là, qui vont être les premières victimes du changement climatique, c'est eux dont on est en train de demander à changer leur comportement. Et leur comportement, c'est pas de leur demander de ne pas rouler en 4x4 ou je sais pas quoi, c'est de leur demander d'arrêter de bouffer, d'arrêter de cultiver la terre pour nourrir leur famille, quoi.
Et quand vous dites « on », Sylvain Angerand, ce qui est assez fascinant, c'est qu'une fois de plus, c'est l'État lui-même qui se fait le serviteur zélé de ses idées et de ses idéaux-là, et qui, en fait, depuis plusieurs années maintenant, met en place tout un système de lois, de règles, de réglementations, qui ont en quelque sorte précédé et accompagné cette nouvelle calamité qui est en train de s'abattre sur la population du Pérou et que vous nous annoncez. Alors j'aime bien la façon dont vous nous expliquez les choses parce qu'on voit très bien ce mélange d'extraordinaire naïveté et de très grande duplicité des acteurs, des acteurs qui sont ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Dans le cas du Pérou, je trouve que c'est particulièrement stupéfiant. Alors racontez-nous un peu ce pays qui, dès 2006 ou 2008, s'est positionné sur cette histoire en disant que ça l'intéressait énormément, ces actions carbone de RED.
Alors le Pérou, oui, comme beaucoup de pays d'Amérique latine, ce qu'il faut comprendre, c'est que les discussions qu'on a pu avoir avec les gens du gouvernement ou les fonctionnaires, c'est que personne n'y pipe rien à RED. Les gens ne comprennent pas ce que c'est derrière. C'est nous qui avons donné les informations. C'est nous qui avons dit, vous savez combien Pure Projet vend la tonne de carbone en Europe ? Je ne savais même pas. Voilà. Donc il y a un vrai déficit d'informations. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, même des gens, des fonctionnaires intéressants, motivés, qui travaillent dans le secteur de la conservation, disent « Bah oui, mais nous, on n'a pas de moyens pour protéger les forêts. » D'un seul coup, il y a cette manne céleste qui nous arrive. Donc voilà, ils ont du mal, ils se doutent bien qu'il y a une embrouille, une anguille sous roche. Mais c'est vraiment compliqué. Et après, ça, c'est au niveau des fonctionnaires, de l'administration. Au niveau des gouvernements, on est dans toutes ces logiques d'accords de libre-échange, de système de remboursement de la dette, de pression de la Banque mondiale, du FMI, qui est extrêmement clair à chaque fois. C'est OK, on vous donne des crédits, mais en échange, vous ouvrez aux investissements étrangers. Voilà, tout simplement. Et le Pérou, l'énorme contradiction du Pérou, c'est l'exploitation minière. On ne peut pas parler du Pérou sans parler de ce qui est en train de se passer autour du projet Conga en ce moment, d'exploitation de mines de cuivre, où il y a des montagnes entières qui vont être rasées pour sortir du cuivre, où les opposants sont criminalisés, on les accuse d'être des narcotrafiquants. Enfin, c'est extrêmement houleux. On a accompagné une délégation aux Nations Unies là, il y a quelques mois. C'était vraiment une ambiance tendue, voilà, très très tendue. Et ces gens-là, ce qui est en train de se passer avec tous ces projets miniers, c'est qu'on déplace des milliers de personnes qui vivaient dans les montagnes, qui vivaient dans un environnement correct, où il y avait de l'eau, ils pouvaient vivre. On les déplace, ils sont chassés, ils sont obligés d'aller dans les zones forestières. Et donc le gouvernement du Pérou, plutôt que de s'attaquer à ces problèmes de fond, d'exploitation industrielle, des mines qui ravagent tout, déplace le problème et dit, non seulement on va faire de l'exploitation industrielle, on va prendre cet argent-là, et en plus, on va bunkériser les forêts, empêcher les gens de rentrer, et on va prendre l'argent des crédits carbone que les Américains, ils appellent ça les Américains, veulent nous donner, quoi. Tant qu'on est doublement gagnant, pourquoi on refuserait?
Et pour ne pas refuser, on fait des lois qui interdisent qu'il y ait des titres de propriété sur une parcelle forestière, par exemple.
Ouais, alors c'est vraiment l'éternel problème dans les pays du Sud. Il faut voir que, alors le Pérou c'est encore un peu différent, mais à qui appartiennent les forêts, c'est une question qui est très, très compliquée, parce que nous en France ça paraît évident, les trois quarts des forêts sont privées, ce qui n'est pas privé c'est du public, on sait à peu près qui appartient, ça, c'est cette stabilisation foncière qui est tout à fait discutable, mais en tout cas elle s'est faite sur plusieurs siècles, au Pérou c'est tout récent. C'est tout, tout récent. La plupart des gens vivent sur des parcelles où, effectivement, ils n'ont aucun titre. Tout appartient à l'État. Tout appartient à l'État.
C'est-à-dire qu'en fait, tout appartenait à personne.
Tout appartenait à personne, exactement. Donc, quand l'État moderne s'est créé, surtout sous la pression, encore une fois, dans ces années 70-80, la Banque mondiale, des programmes d'ajustement structurel, il a fallu nationaliser l'ensemble de ces espaces pour pouvoir mieux l'allouer sous forme de concessions à des entreprises. Donc, tout est devenu propriété de l'État. Et donc, en fait, vous avez une juxtaposition de droits. Vous avez le droit moderne, c'est-à-dire le fait que l'État officiellement est propriétaire de la forêt, qui est venu se juxtaposer à ce qu'on appelle les droits traditionnels, c'est-à-dire les droits d'usage, notamment des communautés autochtones, parce qu'il y a beaucoup de communautés autochtones au Pérou, qui, eux, utilisent la forêt non pas comme une propriété, mais comme un usage. Voilà, il n'y a pas de limite.
Un milieu de vie, quoi.
Voilà. Et ces deux titres, ces deux logiques-là se juxtaposent plutôt que de se fondre. Plutôt que de se fondre, elle se juxtapose. Et c'est là tout le problème, c'est qu'on avait un début de résolution. L'État péruvien commençait à reconnaître de plus en plus de titres fonciers aux communautés autochtones. En Indonésie aussi, on voyait ça. Mais avec Rennes, la donne a changé. Puisque celui qui a le titre foncier, c'est celui qui va pouvoir empocher le magot des crédits carbone. Donc l'État péruvien n'a aucun intérêt à reconnaître les terres des peuples autochtones. S'il veut garder l'argent. Donc le problème, il est là, c'est que plutôt que de résoudre le problème, ça l'a aggravé. Il y a des tensions foncières très très fortes. Nous, on a rencontré beaucoup de communautés autochtones dans la région de Sainte-Martine. On a financé un atelier justement de formation de sensibilisation à RAID, où il y a des gens qui sont venus de toutes les vallées, et les gens étaient en demande d'informations. Qu'est-ce qui est en train de nous tomber dessus, quoi ? Qu'est-ce qui est en train de nous tomber dessus ?
Avec une petite couche supplémentaire, celle de ces paysans que vous avez évoqués tout à l'heure, qui ont été chassés de leurs terres par l'exploitation minière, et à qui, en revanche, on donne en effet des titres de propriété sur des parcelles à condition qu'ils les déforestent.
Alors voilà, ça c'est toujours l'autre problème, c'est que au Pérou, comme dans mon nombreux pays, c'est des jolis qu'on retrouve dans la plupart des pays tropicaux. C'est ce qu'on appelle le droit de hache, quoi. Le droit de hache, pour être bien clair. Si vous voulez avoir un titre de propriété, vous devez défricher, montrer que vous mettez en valeur la terre. Et là seulement, avec un peu de chance, parce que c'est compliqué, vous pourrez avoir un titre de propriété. Mais le paysan qui défriche pas, ou qui fait de l'agroforesterie, ou qui vient juste d'arriver, il ne peut pas, quoi. La seule façon de faire reconnaître son titre aujourd'hui, effectivement, c'est de défricher. Donc on a une logique complètement inverse, quoi, de ce qu'il faudrait faire. Et le Pérou, enfin en tout cas la région de Sainte-Martine, c'est ce mélange de dynamique. C'est-à-dire des communautés autochtones qui sont là depuis des années, qui revendiquent des droits. Des populations qui viennent d'arriver, des régions voisines chassées par l'exploitation minière, des entreprises forestières qui sont là, des entreprises minières, des carbon cowboys, on appelle ça, c'est-à-dire les cowboys du carbone qui, comme Tristan Lecomte ou d'autres, viennent parler de marché du carbone à des gens qui n'ont pas ce souci-là, quoi. Et donc on a tout ce mélange-là qui est en train de se passer dans le laboratoire de Sainte-Martine, et c'est assez fumeux comme mélange.
Allez, encore un peu de fumée, le fait que le gouvernement péruvien a délégué aux régions le fait de négocier ces fameuses histoires d'aires de conservation ou d'aires de reboisement.
Alors ça pourrait être une bonne chose, effectivement, de donner plus de pouvoir aux régions, hein. Mais là, en l'occurrence, ça ne s'est pas bien fait. C'est-à-dire, ce qu'à minima, ce que le gouvernement national aurait dû faire, c'est au moins fixer des règles claires de consultation des populations avant l'attribution de ces concessions. Or, ce n'est pas le cas. Nous, on a passé beaucoup de temps, on a discuté aussi bien avec des fonctionnaires du gouvernement national que du gouvernement régional, et on s'est rendu compte qu'il y avait un vide juridique sur la consultation. Voilà. Donc, en fait, il y a des concessions de conservation qui ont été attribuées sans que les gens soient informés. Les gens qui vivent dedans, quoi, n'ont même pas
Mais
été informés.
Mais vous allez nous informer. Qu'est-ce que c'est que ces aires de conservation?
Ces aires de conservation, alors... Conservation, c'est un mot qu'on entend un petit peu, c'est des aires protégées, comme des parcs nationaux en France. Voilà. Et en fait, avec justement RED, il y a eu un renouveau de ce mouvement de la conservation, et on pourrait dire, c'est bon, c'est une bonne chose de conserver la forêt, c'est toujours une bonne chose. Sauf qu'on est en train de faire le pire de la conservation, ce qu'on appelait la conservation forteresse, c'est-à-dire que plutôt de s'attaquer à la racine du problème, et pourquoi il y a de la déforestation, on va mettre des patrouilles et on va empêcher les gens de venir déforester, sans essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc on a une recrudescence de ce type de projet-là. Et les concessions de conservation, donc, qui sont des instruments assez nouveaux créés par le Pérou, et notamment avec cette volonté de capter ces crédits RED, eh bien ce sont d'immenses concessions, 300 000 hectares, quand même, on parle de 300 000 hectares dans le cadre Pure Projet, qui ont été donnés pour générer des crédits carbone. Voilà. Pour générer des crédits carbone. Et le problème, c'est qu'encore une fois, il y a des gens qui vivent dedans, il y a des gens qui vivent autour, et qui ne sont pas informés de ce que ça implique, notamment du fait qu'on ne va plus avoir le droit de cultiver dedans, quoi.
Ils ne sont déjà pas informés qu'ils sont donnés, en quelque sorte, sans qu'on leur ait demandé leur avis. Et pourtant, les lois stipulent qu'il faut qu'il y ait une sorte d'avis public, un peu comme nos enquêtes publiques, et que les communautés ont 30 jours pour réagir et pour protester et éventuellement apporter la preuve que ça n'est pas faisable. Ouais. Ça vous fait rire ce que je vous dis là, Sylvain Jean ?
C'est vraiment la loi sur le papier, ça. C'est le gars qui a écrit cette loi-là, il n'a jamais été voir les communautés. D'ailleurs, 30 jours, les gens qui vivent au cœur de la forêt, nous, on a déjà mis 3 jours de marche, 2 jours de transport pour aller dans les villages. Je pense pas que les gens dans ces villages-là, ils lisent le journal officiel et qu'ils m'auraient dit en 30 jours faire une contre-proposition technique à un projet de concession de conservation.
Non, et trouver un hypothétique titre de propriété sur une forêt qui, de toute façon, ne leur appartient pas.
Et puis, en plus, faire une contre-offre financière pour contrebalancer. Non, faut être réaliste, c'est de la foutaise, quoi. C'est pas de la consultation du tout. Non, c'est extrêmement grave. Et puis encore, on revient là-dessus, c'est que ces gens-là n'ont pas de titre foncier. Nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces gens-là n'existent même pas. Quand Pure Projet a fait son projet, ils les avaient même pas sur la carte au départ. Parce qu'officiellement, eux considéraient que... On sait pas si c'est les communautés qui vivent dans cette zone de forêt qui est tout au nord des concessions, c'est à la frontière entre la province de Cajamarca, la province minière, et la province de San Martín. Et les communautés, quand vous allez les voir, elles vous disent « Ah, elles sont de Cajamarca. » Parce qu'elles viennent de là, parce que l'école, les dispensaires est financé par Cajamarca. Mais San Martín dit « Non, ces villages leur appartiennent. » Donc en fait, il y a un vrai conflit territorial. Et donc, officiellement... San Martín les avait plus ou moins oubliés, ils les ont récupérés, donc on s'est retrouvé avec des situations absolument ubuesques, et le fait est que les gens n'ont pas été informés, quoi. Ils ont été informés très très... après que la concession de conservation a été attribuée. Et encore, quand je dis informés, après il faudra en discuter, hein, parce que... on me dit toujours... On leur a expliqué que ça allait être génial, qu'on allait développer des projets d'apiculture, qu'on allait les aider, mais on leur a absolument pas parlé des restrictions que ça allait impliquer, quoi.
Alors, il y a une petite histoire assez amusante que que vous racontez, c'est que Tristan Lecomte est allé d'abord dans une communauté autochtone, où il a parlé justement d'apiculture et de... Et il leur a même promis des cuisinières à gaz. Et en fait, ça n'a pas tourné exactement comme il le souhaitait.
Non, ça n'a pas tourné comme il le souhaitait. Donc c'est dans la communauté des Yorri Lamas, qui est une communauté magnifique. C'est passionnant d'en parler aussi, là, parce que c'est... Nous, on avait vraiment été scotchés par cette communauté. Déjà, pour la rejoindre, c'est pareil, quoi. Faut marcher mais 10 heures au moins sur un chemin hyper tortueux pour rejoindre la communauté. Et eux, ils ont la chance d'avoir un titre foncier. Ils ont 30 000 hectares. C'est magnifique. Tout protégé de forêt, magnifique. Et cette communauté, eux, ce qu'ils veulent, c'est une route. Alors, une route... C'est pas pour faire passer des engins de la déforestation ou autre. Quand ils disent une route, c'est juste un sentier qui soit utilisable pour les mules, juste pour pas se casser les pieds et pas tomber comme c'est le cas aujourd'hui, quoi. Donc un petit sentier qui permettrait de relier plus facilement le village. Et tout le monde leur refuse. Tout le monde leur refuse. Le gouvernement leur refuse parce que non, si on vous met une route, vous allez faire de la déforestation. Et Tristan Lecomte est arrivé là-dedans. Donc c'était en 2009-2010. Il voulait faire de cette communauté son premier projet pilote RED, parce qu'il y a 30 000 hectares. 30 000 hectares, c'est beaucoup. Et donc, il est venu, il leur a parlé de cette marché du carbone. Alors, c'est très amusant d'entendre les gens vous en parler, avec leurs propres mots. Il est venu nous lever les oreilles avec ses histoires d'oxygène ou de carbone. On voit bien que pour les gens, ça n'a aucun bon sens, quoi. Et puis, ce qui les a troublés, c'est qu'il est venu. Il leur a parlé d'abord de 40 ans, de contrats de 5 ans, 10 ans, 40 ans. Un jour, c'était 100 euros. Puis le lendemain, 50 euros, vous savez, le cours du carbone a baissé. Chien, vu que ça marchait pas, qu'il y avait une embrouille là-dessous, quoi. Ils l'ont chassé. Ils m'ont dit de plus revenir. Ils m'ont dit, si tu reviens, on t'attache à l'arbre aux fourmis. Et il est pas revenu depuis. Et le petit village à côté, Chambouyaku, qui eux ont 2500 hectares, avait plus ou moins signé, était plus ou moins d'accord, mais vu qu'Yorri Lamas a dit non, il n'est pas retourné voir Chambouyaku pour leur proposer, parce que ça ne l'intéressait pas. Lui, ce qu'il voulait, c'était 30 000 hectares. Quoi. Chambouyaku, il prenait avec, parce que c'était à côté. Mais du coup, les gens, quand on est allé à Chambouyaku, ils ne savaient même pas s'ils avaient signé un contrat ou pas. Quoi. Ils ne savaient même pas. On a dit, mais vous savez que c'est assez grave, parce qu'on leur a montré les contrats carbone qu'il avait signés par ailleurs. Dans ces contrats carbone, il y a un transfert exclusif et total de tout le carbone vers Pure Projet. On leur dit, mais vous savez ce que c'est le carbone? Le carbone, c'est cette feuille, cet arbre, c'est ton champ, c'est tout. Donc, officiellement, tout lui appartient, quoi. Il n'y a aucune définition internationale ou même nationale de ce que c'est que le carbone. Donc, quand on transfère tous les droits liés au carbone, on transfère tout, toute la vie. Et ça, les gens ne sont pas au courant de ça. Ils ne comprennent pas.
Ça, c'était la minute de sourire, en quelque sorte. Mais malheureusement, ailleurs, ça s'est moins bien passé, puisque Pure Projet a réussi, en s'appuyant sur les réseaux de commerce équitable de Tristan Lecomte, ils ont réussi à créer de toutes pièces des coopératives de producteurs, lesquelles ont acquis, en quelque sorte, et transféré 300 000 hectares de forêt à Pure Projet.
Alors, ces coopératives de producteurs de cacao, elles existaient avant. Hein. Effectivement, elles sont créées à l'époque où le gouvernement a voulu lutter contre le narcotrafic en faisant la promotion du cacao. Donc, c'était des programmes intéressants, soyons clairs. Et c'est des coopératives qui ont fait du boulot intéressant. Voilà. Maintenant, Tristan Lecomte est venu leur tourner la tête. C'est-à-dire que c'était des gens avec qui il travaillait dans le cadre du commerce équitable et il est venu leur parler du marché du carbone. En leur disant, ça serait génial, vous savez, il y a un truc qui se crée. Moi, avec Pure Projet, je ne peux pas accéder à ces concessions. Je ne suis pas péruvien, il me faut des partenaires. Bah, vous pourriez candidater. Et nous, on a été les rencontrer, ces coopératives de cacao. Quoi. On a vu des gens qui avaient été embauchés et autres, qui ne pipaient pas grand-chose non plus de ce que c'était que le marché du carbone. Quoi. Et voilà comment des coopératives de cacao se sont retrouvées à gérer des milliers et des milliers d'hectares. Alors, ça a choqué beaucoup de monde. Lors de cette mission, on a eu la chance de rencontrer, d'aller dans un endroit merveilleux, la vallée de Los Chilchos, qui est un haut lieu de biodiversité, où il y a le singe laineux à queue dorée, qui est une des espèces les plus menacées. C'est vraiment une vallée magnifique. Et là, il y a une petite ONG, Ukumari, qui fait vraiment du bon boulot avec les communautés, qui a essayé de développer ce qu'on appelle une aire de conservation privée, puisque cette communauté a eu la chance d'avoir un titre foncier. coup Marie les a aidés, ils ont ensuite protégé leur territoire. Mais c'est leur choix. C'est-à-dire que pour faire ça, avant de fixer le territoire, ils ont dit ça, ce sont les zones où on cultive, ça, ce sont les zones qu'on conserve. Ils ont fait tout le travail ensemble. Et pour financer ça, ils vendent du café, en fait. Ils vendent du café dans un réseau en Europe avec le soutien de zoos. Voilà. Bon, on peut penser ce qu'on veut des zoos, moi j'ai pas d'avis. En tout cas, je constate juste que cette ONG a fait un petit travail qui était intéressant.
Et ils ne sont pas passés par les crédits carbone.
Ils sont pas passés par les crédits carbone. Alors, quand on les a rencontrés, ce n'était pas par militantisme. Eux, comme les partisans du marché du carbone, ils ne comprenaient rien au marché du carbone. Ils se sont juste dit, oui, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Quelqu'un qui veut nous donner des centaines d'euros pour rien faire, il y a quelque chose qui cloche. Et donc, ils n'y sont pas allés. Mais eux, ce qui les a surpris, c'est que à Copagro, qui est à des dizaines et des dizaines de kilomètres, c'est-à-dire dans les vallées très très basses, alors qu'eux sont les zones de montagne, reçoivent une concession forestière pour un territoire qu'ils ne connaissent pas, où les gens qui vivent, personne n'est adhérent à Copagro.
À Copagro, voilà. Donc, il faut préciser, c'est la fameuse coopérative de cacao dont vous parliez il y a deux minutes, Sylvain Angerand, ouais. Et qui, en effet, se trouve très, très loin, dans les vallées. Ouais. Et c'est elle qui se retrouve à avoir cette concession forestière.
Exactement.
De la vallée de Los Chilchos.
Ouais. Alors, ça chevauchait, justement, avec la vallée de Los Chilchos. Et c'est là où il y a eu cette ONG, en fait, a réussi à être informée dans ce fameux délai de 30 jours. Eux ont réussi à savoir qu'il y avait ce projet-là. Et ils ont vu immédiatement que la concession de Pure Projet chevauchait sur l'aire de conservation qu'ils avaient fait avec les communautés. Donc ils ont tout de suite tiré la sonnette d'alarme et ils ont réussi à faire exclure la zone de la communauté de la concession de Pure Projet. Mais heureusement qu'ils ont eu cette information un peu par hasard, par des collections au gouvernement régional.
Mais par contre, d'autres villages, eux, n'ont pas eu cette chance et ils se sont retrouvés englobés dans la concession qui avait été donc en fait, en quelque sorte, négociée par cette coopérative qui étaient très loin de chez eux, et sans qu'ils aient jamais été informés d'une quelconque réunion.
Non, tout à fait. Et ces villages, on a été rencontrés, ces gens-là. C'est des gens qui sont très très pauvres, hein. C'est des migrants qui ont été déplacés, toujours par ces problèmes de mines, qui sont venus s'établir il y a 10, 20 ans, 30 ans, maximum. C'est vraiment un village où les gens viennent s'installer, quoi. Et quand on entre, notamment à Canaan, ils ont fait un portique avec deux bouts de bois, Canaan, terre d'espoir, quoi. C'est vraiment ça. C'est que les gens viennent ici avec l'espoir de vivre, juste d'avoir un lopin de terre à cultiver, quoi. Et dans cette région-là, en fait, ce qu'on a observé, la dynamique, c'est que les gens fuient Cajamarca, viennent s'installer, cultivent un lopin de terre, et une fois qu'ils sont bien, en fait, ils font passer le message, ils invitent d'autres familles à rejoindre. Pourquoi ? Parce que déjà, ça permet d'avoir plus de personnes. Et au-delà d'un certain seuil, vous pouvez aller voir le gouvernement régional et demander des hôpitaux, des écoles, des services publics. Donc il y a un vrai intérêt pour ces villages d'arriver à créer ce qu'on appelle des centres de population. Voilà. En même temps, la concession de conservation a été donnée en 2012 officiellement. Donc ces villages, Canaan, étaient dedans. Et alors que la concession a été donnée, donc les villageois n'étaient pas au courant, cette même année-là, ils ont invité 50 nouvelles familles à les rejoindre. à les rejoindre et à venir prendre un lopin de terre pour cultiver, quoi.
Mais donc, maintenant, Sylvain Jean, concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour ces familles, pour ces concessions qui sont devenues des lieux de conservation destinés à produire du crédit carbone?
Alors, ce qui va se passer, moi, encore une fois, je ne suis pas devin, je ne prétends pas lire dans des boules de cristal comme les partisans de RAID le prétendent, mais... Nous, ce qu'on a montré, c'est qu'on a regardé les contrats qui avaient été passés, et notamment le contrat qui a été passé entre Acopagro, donc la coopérative de cacao qui vend tout, transfère tous les crédits carbone à Pure Projet, puis le gouvernement régional. On a amené ces contrats dans les communautés parce qu'ils ne les avaient jamais vus. On a lu les clauses en réunion publique, des clauses qui prévoient explicitement l'intervention de la police, des militaires, pour toutes les personnes en infraction ou dans l'illégalité. Mais tout le monde est dans l'illégalité, personne n'a de titre foncier là-bas. Vous auriez vu la réaction des gens dans la salle, mais les gens avaient peur. Quoi. Les gens avaient peur, des gens qui ont fui chez eux pour venir s'installer à un endroit. Et maintenant, il y a une épée de Damoclès, on leur dit qu'il y a les militaires qui peuvent venir les déloger à tout moment. Mais c'est inimaginable, quoi.
Et puis il y a l'interdiction de pratiquer de l'agriculture.
Alors ça, c'est pas clair. C'est que Pure Projet dit « Non, on ne va rien interdire, vous inquiétez pas. » Mais c'est une zone de conservation. Quand on prend le contrat, il y a écrit noir sur blanc qu'on ne doit pas faire de, des friches bouillies qu'on ne doit plus cultiver. Et si vous voulez générer des crédits carbone, on regarde le document qu'ils ont produit. C'est sur la base de ce document qu'ils ont fait ce fameux scénario de déforestation. Et la cause numéro un de la déforestation, selon Pure Projet, ce sont ces petits paysans qui font de la défriche brûlée. Donc s'ils veulent générer des crédits carbone, ils vont devoir limiter ça. Donc c'est pas possible de nous dire que d'un côté, on va rien faire pour empêcher les gens de cultiver, et de l'autre, de dire que c'est la cause numéro un. S'ils s'attaquent pas à ce problème-là, ils génèrent pas de crédits carbone. Voilà.
70%, dit-on, de la déforestation est liée à l'agriculture sur brûlis. C'est drôle parce que ce chiffre 70%, on le retrouve de l'autre côté, du côté heureux de cette affaire, Sylvain Angerand. Je suis étonnée que vous n'en parliez pas. C'est les bénéfices qui sont censés retourner aux communautés. Pure Projet annonce que 70% des crédits carbone seront donnés aux communautés.
Alors, bien sûr, nous, quand on a vu ça, on a voulu en savoir plus. Déjà, le paragraphe du contrat est loin d'être aussi clair que ça. Il parle de montant net. Montant net. Ça veut dire que l'on va déduire un certain nombre de frais. Or, justement, quand on parle de crédit carbone, ce sont ces frais qui posent problème. C'est-à-dire tous les coûts de transaction, les coûts de certification, qui sont extrêmement coûteux, les coûts de mesure du carbone. Donc déjà, on va déduire tous ces frais-là. Je ne sais pas ce qui va rester. Dans un projet carbone qu'on a suivi au Mozambique, ça représentait presque 90% du prix. Donc c'est énorme. Et ensuite, au bénéfice des communautés, on a demandé le budget pour voir un petit peu quelles étaient les activités. Les activités qu'ils considèrent comme étant au bénéfice des communautés, c'est embaucher des patrouilles de garde. Ah, ok, ça va créer un peu d'emploi dans le village pour quelques gardes. Est-ce que c'est vraiment au bénéfice des communautés ? Alors, bien entendu, il y a quelques activités d'apiculture, des choses intéressantes, ils veulent mettre quelques panneaux solaires. C'est sans doute très bien.
Budgété 4%, c'est ça ?
4%, 2%, c'est quasiment rien. La plupart des frais, quand on regarde le budget, c'est pour payer les salaires alors, de la Fondation Amazonia Viva. On n'en a pas parlé encore. Mais...
On n'a plus le temps, là.
Ils ont créé une structure, en fait, une sorte d'ONG locale, encore une interface, pour pouvoir gérer ces crédits carbone. Et c'est cette interface, la Fondation Amazonia Viva, qui fait les activités. Mais les gens sur place ne les connaissent pas. Enfin, y a vraiment... Tout est obscur. Rien n'est transparent. Et c'est vraiment compliqué, quoi.
On va terminer sur deux points obscurs encore. Sylvain Angerand, très rapidement. Premier point obscur. En effet, vous l'avez vaguement évoqué tout à l'heure, les gouvernements régionaux ne sont absolument pas au courant et ne savent pas que toute cette histoire de conservation va générer des flux monétaires qui ne passeront jamais... sur place. Les gouvernements régionaux ne touchent pas un centime. On peut se dire que c'est formidable, ils ne sont pas corrompus. Mais tout de même, Pure Projet a prévu le risque et ils ont...
provisionné un petit peu d'argent, ouais.
Au cas où.
Au cas où. Mais effectivement, c'est vrai que là aussi, ce n'est pas clair. On ne sait pas effectivement si le gouvernement va recevoir de l'argent. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ils ne reçoivent rien. Et puis surtout, nous, on leur a demandé simplement, est-ce que vous savez combien ça génère, ces crédits carbone ? Est-ce que vous savez combien Pure Projet vend en Europe ? On a posé cette question au gouvernement régional, on a posé cette question aux communautés. On a même posé cette question à Copagro et à la Fondation Amazonia Viva. Et personne ne savait, quoi. Personne
vous avez calculé entre 60 et 90 millions d'euros, à peu près ?
Oui, si on calcule sur l'ensemble du projet, on est dans 40 millions. Oui, on est un crédit carbone, une tonne de carbone. Et puis, on a même posé la question de façon explicite. Ça se vend entre 7 et 10 euros à peu près la tonne de carbone.
Voilà. Et dernier point obscur, Sylvain Angerand, on l'a évoqué aussi, mais j'aimerais qu'on souligne peut-être un peu ce point. On vous a objecté, lorsque vous avez fait votre mission, que de toute façon, puisque les terres étaient déjà réserves forestières, de toute façon, les personnes sur place n'avaient pas le droit d'habiter, de pratiquer l'agriculture, etc. Et que donc, elles étaient déjà dans l'illégalité. Si ce n'est que Pure Projet, ce collectif, comme il se nomme, qui a décidé de transformer les intentions pures des grandes entreprises en Pure Projet, a fait signer des contrats dans lesquels il est stipulé très explicitement qu'il faut faire appel à la police ?
Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on est sur ce même flou qui existe depuis des années, c'est qu'on ne sait pas à qui appartiennent les forêts. Donc officiellement, elles appartiennent à l'État. L'État a même fait un plan de zonage où il y a des zones écologiques qui sont définies. Mais les gens, ils vivent dedans. Et donc il y a toujours une forme de tolérance, quoi. Et donc c'est ce que nous objecte Pure Projet en disant « Mais regardez, ils sont dans la zone écologique, donc de toute façon, ils ne devraient même pas être là. Donc nous, voilà, on n'y est pour rien. Mais sauf qu'en venant créer ce projet, en venant passer un contrat avec le gouvernement régional, il fige la situation. Et il empêche définitivement ces communautés d'avoir un jour un droit reconnu sur la terre. C'est ça qui est inadmissible. Et non seulement ces communautés n'auront plus de droit sur la terre, mais il les place dans une situation d'insécurité foncière totale, puisque du jour au lendemain, vu qu'ils n'ont plus le droit, ils peuvent être expulsés par la police ou l'armée. Ce que prévoit explicitement ces contrats. Voilà.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la réécouter, la télécharger sur notre site franceculture.fr. Vous y trouverez le lien vers le rapport des Amis de la Terre, Sylvain Angeran, que vous avez entendu ce matin. Vous retrouverez également, bien sûr, notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi. Préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon. Mixage, Nadège Antonini. Réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.
Thank you.